La semaine dernière, les médias français ont publié une série de textes, de reportages au sujet de l'application de rencontre pour jeunes Wiz. Et cette semaine, c'était au tour des médias québécois de s'emparer du sujet. Cette application française, qui n'est pas nouvelle, je me souviens d'en avoir parlé lors de sa sortie avant la pandémie, fonctionne vraiment comme Tinder. C'est-à-dire que vous voyez des photos d'utilisateurs que selon votre intérêt, vous envoyez à gauche ou à droite si vous avez le goût de communiquer avec eux. Et c'est cette application qui est destinée aux jeunes de 13 à 21 ans qui, ces jours-ci, fait parler d'elle parce que de nombreuses histoires d'extorsion, de sextorsion, et même des histoires de pédophiles qui rôdent autour de ce réseau ont fait surface. Pour faire le point sur cette application et le risque rattaché à son utilisation par les jeunes, on rejoint René Morin. Il est le porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, Monsieur Morin.
Bonjour.
Monsieur Morin, si je vous demandais de me présenter l'application Wiz, comment vous me la présenteriez?
On pourrait dire que c'est une sorte d'hybride entre Tinder et Omegle. On se souviendra que Omegle était cette application qui n'existe plus aujourd'hui, là, mais qui mettait les jeunes en contact avec des inconnus aléatoirement sur Internet. Cette application-là, faut-il le souligner, a été retirée d'Internet justement parce qu'elle était mise en cause dans des cas potentiels d'enfants. Donc, d'une part, vous avez les fonctionnalités de Google, et d'autre part, vous retrouvez aussi sur Wiz les fonctionnalités que vous avez sur Tinder, où on propose des profils d'individus de votre groupe d'âge que vous pouvez là, balayer en faisant glisser votre doigt vers la gauche. Là. Donc, c'est un peu un hybride entre les deux, si je puis dire.
L'application, elle date, je me souviens d'en avoir parlé quand ça a été sorti, c'est une application française, elle date de 2019. Pourquoi on en parle maintenant ici?
Parce qu'elle génère énormément de signalements de sextorsion. Chez nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, là, depuis 3 ans, on en est à quelque chose comme 200 signalements en lien avec Wiz. Et dans 91% des cas, ce sont effectivement des signalements de sextorsion. Aux États-Unis, par exemple, notre homologue américain qui s'appelle le National Center for Missing and Exploited Children, chez eux, ils sont beaucoup plus gros que nous, évidemment. Ils couvrent les États-Unis au complet. Mais l'application Wiz, chez eux, est la troisième application, arrive au troisième rang des applications les plus signalées dans les cas de sextorsion. Donc, c'est un petit peu pourquoi on a décidé de tirer la sonnette d'alarme concernant Wiz. D'autant plus que ces développeurs cherchent activement là, à augmenter leur présence sur le marché américain, là, nord-américain.
Oui, c'est ça. Récemment, il y a quelques mois, ils ont fait leur sortie sur leur marché nord-américain. Et c'est probablement ce qui explique aussi qu'il y a une augmentation de ce côté-ci, l'utilisation. Quand vous regardez cette application-là, quand vous regardez le type de crime qui est fait, vous parliez de sextorsion, ça ressemble à quoi les scénarios jusqu'à maintenant qui sont venus à vos oreilles, les cas les plus documentés?
Ben, le scénario type est un peu celui que trouvait déjà avec d'autres applications. En fait, les sextorqueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser des applications grand public que les jeunes utilisent tous les jours, plusieurs heures par jour. Ça peut être Instagram, ça peut être des tas d'autres applications. Et c'est souvent par ces canaux-là que les premiers contacts vont se faire. C'est souvent par ces applications-là ou avec l'aide de ces applications-là qu'on va se renseigner sur les victimes. On va recueillir des informations à leur sujet, qui sont leurs amis, où est-ce qu'ils habitent, quelle est l'école qu'ils fréquentent, etc., etc. Et une fois que le contact est bien établi, ben ils vont inviter la victime à poursuivre la conversation sur un canal plus privé, souvent une plateforme qui va être chiffrée, parce qu'on comprend bien que ces individus-là cherchent à camoufler leurs traces. Et c'est dans ce contexte-là, le plus intime, plus réservé, qui vont amener leurs victimes à se dévoiler, qui vont déployer tout l'arsenal de leur tactique de manipulation là, pour amener leurs victimes à se dévoiler, à s'exhiber à l'écran. Et elles vont se prêter au jeu tout à fait innocemment, là, sans se douter que ces images-là sont captées, sont enregistrées, et vont ensuite être utilisées contre eux ou contre elles pour leur soutirer de l'argent ou d'autres images osées. En gros, c'est à peu près ça le stratagème de la sextorsion, et c'est comme ça que les sextorqueurs utilisent Wiz.
Quel conseil vous donnez aux parents, aux gens qui sont autour des jeunes, qui tomberaient dans ce panneau-là?
Bien évidemment, on recommande aux parents de songer à retirer Wiz des appareils numériques de leurs enfants. Et pour ceux qui se font prendre au piège, ben les meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est premièrement de couper toute communication avec le sextorqueur. Souvent, les sextorqueurs vont utiliser plusieurs plateformes, plusieurs canaux pour bombarder la victime. Et donc, couper la communication sur tous les canaux avec le sextorqueur dans un premier temps. Ensuite, ne jamais donner à un sextorqueur ce qu'il vous demande. Vous allez penser acheter la paix en envoyant quelques images intimes ou une certaine somme d'argent, une rançon qui peut vous être demandée. Ça ne marche pas. On a analysé chez nous, on a publié une étude l'an dernier hein, où on a analysé plusieurs centaines de témoignages de victimes de sextorsion financière sur un forum Reddit. Pour en venir à la conclusion que ça ne fonctionne pas. On ne donne pas à ces gens-là ce qu'ils vous demandent. Vous n'allez qu'exacerber le problème. Ils vont vous en demander davantage. Hein? Deuxième conseil. Troisième conseil, prendre des captures d'écran des communications que vous avez pu avoir avec le sextorqueur et des images, conserver les images qui ont été échangées. Et bien sûr, faire un signalement aux autorités. On sait très bien que les sextorqueurs s'en prennent rarement à un seul enfant à la fois. Ils travaillent souvent sur plusieurs victimes. Et il y a même des organisations criminelles basées à l'étranger, dans des pays comme les Philippines, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, où vous avez vraiment des groupes organisés qui ne font que ça, de la sextorsion. D'où l'importance de dénoncer tout ça aux autorités. Et bien sûr, c'est important pour les jeunes qui pourraient nous écouter ou les parents d'aller chercher de l'aide. Vous savez, quand on parle de sextorsion, on parle beaucoup d'une problématique qui va toucher les adolescents. Les adolescents n'auront pas, qui se font prendre au piège, là, n'auront pas nécessairement comme premier réflexe de se tourner vers leur père ou leur mère ou un autre adulte de confiance pour avoir de l'aide. Ils vont chercher à régler le problème par eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas à armes égales. Avec ces individus-là. Nous, ce qu'on offre au Centre canadien de protection de l'enfance, c'est un service qui s'appelle Aidez-moi SVP.ca. Et on a, avec ce service-là, une équipe là, dédiée qui va accompagner les jeunes dans leur démarche, qui va les aider à se sortir de ces situations là, d'exploitation sexuelle, de diffusion d'images intimes, et qui va même intervenir pour faire retirer d'Internet les images qui auraient pu être mises en circulation. Donc, aidez-moi, svp.ca, c'est certainement une ressource là, à recommander aux jeunes dans ces situations-là.
René Morin, vous êtes porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Merci beaucoup pour cette entrevue, ces détails. Moi, je mets un lien à partir de la page descriptive de mon carnet de cet épisode vers votre service d'aide en ligne. Et si on peut aider des gens, ben, tant mieux, ça sera fait. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous de l'invitation. Au revoir.